Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité et vous êtes nombreux, c'est peu de le dire au standard, à souhaiter commenter et réagir à la polémique que suscite en Côte d'Ivoire la mort d'Awa Fadiga, ce jeune mannequin de 23 ans décédé la semaine dernière dans un hôpital public d'Abidjan. Sa mort suscite de nombreuses réactions de colère, d'indignation, car ses proches mettent directement en cause le manque de soins reçus à l'hôpital. Sa famille affirme que la jeune femme est décédée car le personnel des urgences exigeait d'être payé avant de réaliser les premiers soins médicaux, une version contestée par le ministère de la Santé, d'où cette polémique qui met en lumière les insuffisances du système de santé ivoirien. Alors que vous inspire ce drame? Quelles leçons faut-il en tirer? Vous continuez à nous rejoindre, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Vos réactions également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter. Le débat du jour, ce sera dans 30 minutes, mais d'abord, comme tous les matins, évidemment, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, eh bien, appelez-nous et n'attendez pas le début de l'émission pour nous rejoindre. Vous pouvez le faire, évidemment, tout au long de la journée, car le standard reste ouvert. La première question, eh bien, nous allons nous intéresser aux élections municipales en Turquie. C'était dimanche dernier. Bonjour, Seydou.
Bonjour.
Vous êtes à Conakry, en Guinée. Nous vous écoutons.
Merci. Malgré les scandales de corruption qui a ébranlé le gouvernement de l'AKP, nous avons vu que ce parti a remporté les élections locales de dimanche dernier et du coup en améliorant son score par rapport aux élections passées. Mmh. Alors, comment peut-on expliquer cette victoire de l'AKP? Et qui est-ce qui constitue la base électorale de l'AKP? Et comment est-ce que les partis d'opposition s'organisent face à cette situation?
Ouais, bonne question, effectivement. L'AKP, le parti du Premier ministre, a obtenu plus de 45% des voix à l'échelle nationale. C'est donc un succès incontestable pour le Premier ministre. Bonjour Didier Billion.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous animez l'Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique sur le site de l'IRIS. Alors effectivement, on comprend l'interrogation de Seydou. Il y a eu ces manifestations, on s'en souvient, de la place Taksim au printemps dernier. Il y a tous ces soupçons de corruption qui pèsent sur le Premier ministre et sur certains membres du gouvernement. Et pourtant, on voit bien que toutes ces affaires, finalement, n'ébranlent pas le Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, ni son parti. Comment expliquer cette victoire dimanche dernier?
Oui, votre auditeur a parfaitement raison. Non seulement le parti de M. Erdogan n'est pas ébranlé, mais de plus, il fait un meilleur score que lors des dernières élections municipales qui s'étaient tenues il y a 6 ans. Alors, il y a plusieurs facteurs d'explication, mais tout d'abord, une petite carte électorale, parce que ce qui est intéressant de constater, c'est que ce parti de la justice et du développement est majoritaire dans l'équivalent de 50 sur 81 départements. Bien sûr, ce sont des élections municipales, mais il y a aussi des élections provinciales et locales. Le système est un peu compliqué, peu importe. Donc ça veut dire que ce parti est implanté sur la quasi-totalité du territoire turc, à l'exception de l'extrême ouest, où c'est le parti kémaliste qui reste majoritaire, et à l'exception du sud-est, qui est là, dominé par le parti kurde, puisque c'est une zone de peuplement kurde. Je souligne aussi que les deux principales villes de la Turquie, c'est-à-dire Istanbul et Ankara, restent aux mains du parti de M. Erdogan.
D'ailleurs, il y a un dicton turc qui dit celui qui remporte les élections à Istanbul dirige finalement le pays.
Oui, absolument, ouais. Parce que ça a une valeur symbolique, et puis non seulement symbolique, mais c'est aussi une ville qui, au total, fait à peu près 15 millions d'habitants, donc c'est évidemment une grosse partie de la Turquie. Ces élections locales ont une valeur de plébiscite pour le Premier ministre. Deuxième niveau, c'est compose ce parti. En fait, c'est un parti qui est un peu un parti attrape-tout, c'est-à-dire qu'on constate qu'il a des ramifications et une base sociale et électorale, bien sûr, dans à peu près toutes les couches dans la société. Tout d'abord, les couches les plus populaires, les couches les plus démunies, parce que le parti en question a développé au cours des dernières années des œuvres de charité. C'est ainsi qu'il conçoit, lui, le développement économique, mais qu'on le veuille ou non, ces œuvres de charité, cette aide aux plus démunis, eh bien, lui constitue une base électorale, c'est ce qu'on pourrait appeler du clientélisme. Mais vous avez aussi une partie des classes moyennes turques, je dis bien une partie, qui sont assez séduites par ce parti, parce que les bons résultats économiques de la Turquie depuis maintenant 10 ans, même si depuis un an ou deux, ils sont un petit peu moins bons, mais il n'empêche, les progrès ont été spectaculaires, eh bien ces classes moyennes ont pu s'affirmer, ont pu consommer plus, etc. Et elles en sont redevables à l'AKP, qui, il est vrai, a été le vecteur de cette expansion économique.
Et donc puis, enfin, le bilan positif, bilan économique et social de Recep Tayyip Erdogan et de son parti et du gouvernement expliquerait donc le succès de dimanche dernier, malgré tous les scandales.
Ah oui, oui, parce qu'on peut considérer que cet électorat, finalement, il préfère quelque part un parti, même si celui-ci est corrompu, et il l'est beaucoup, mais qui a été vecteur de progrès économique. Et parce que en plus, ce parti, il a une légitimité issue des urnes, et que les Turcs gardent en souvenir les coups d'État à répétition qui ont lieu en Turquie, et dont ils gardent un bien mauvais souvenir. Donc ils préfèrent un parti finalement corrompu, mais issu des urnes, plutôt que ceux ou celles qui voudraient promouvoir un coup d'État.
Didier Billon-Sédou nous demandait quelle est maintenant désormais la marge de manœuvre pour l'opposition. Une chose est sûre, c'est que c'est un échec cuisant pour l'opposition.
Oui, parce que, comme vous l'avez rappelé, les profondes manifestations, parfois violentes manifestations du printemps dernier, du mois de juin dernier, les scandales à répétition, et j'y insiste, il n'y a pas une seule journée depuis le mois de décembre où de nouveaux scandales ne sont pas révélés. Malgré cela, l'opposition n'a pas été capable de capter, de capitaliser ce mécontentement d'une partie de la population. Alors, cette opposition, elle est répartie en trois parties, si vous voulez. Il y a le parti kémaliste traditionnel, qui fait là ses élections 28%, mais qui est un peu englué dans ses certitudes un peu anciennes, qui n'a pas su s'adapter aux conditions nouvelles de la Turquie. Vous avez un parti d'extrême droite nationaliste qui s'appelle le Parti d'Action Nationaliste, qui représente à peu près au Parlement et lors de ces élections locales 15%. Et puis vous avez un troisième parti qui est le petit jeune de la bande, si vous me passez l'expression, c'est le Parti pour la paix et la démocratie, qui est un parti kurdiste, qui n'arrive pas à s'imposer sur la totalité du territoire, mais qui fait véritablement d'excellents résultats au sud-est de la Turquie, puisqu'il y a des villes qu'il a remportées avec 60-65% des suffrages exprimés. Mais aucun de ces partis actuellement n'est capable, en réalité, de s'imposer comme une alternative à l'AKP.
En tout cas, Recep Tayyip Erdogan avait fait de ces élections municipales une sorte de référendum, et le référendum remporté haut la main, plus de 45% des voix à l'échelle nationale pour ces élections donc de dimanche dernier. Merci beaucoup Didier Billon d'avoir été avec nous, directeur adjoint de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. 33 9 693 693 70. Plusieurs questions concernant l'enquête sur l'assassinat de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Bonjour Célina.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez du sud du Sénégal, nous vous écoutons.
Oui, merci Juan. Depuis 5 mois, les deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ont été assassinés à Kidal, au nord du Mali. Dès lors, nos familles réclament la justice. J'aimerais savoir ce qui explique le blocage ou le retard dans cette enquête. Ma deuxième question est la suivante. Comment les autorités maliennes et françaises coopèrent ensemble dans cette enquête?
Oui, Ghislaine et Claude assassinés il y a maintenant 5 mois. C'était le 2 novembre à Kidal, dans le nord du Mali. Bonjour Christine Muratet.
Oui, bonjour Juan, bonjour Célina.
5 mois après l'assassinat de nos confrères, l'enquête piétine. Et c'est vrai que dans cette enquête, les blocages sont nombreux.
Oui, d'abord avec des difficultés qui sont inhérentes au dossier. En raison de l'insécurité qui règne toujours dans la région de Kidal, les enquêteurs français, les enquêteurs maliens ne peuvent pas se déplacer facilement pour poursuivre des interrogatoires de certains témoins ou de certains proches, même des auteurs présumés de l'enlèvement et de l'assassinat. Ils ne peuvent pas se déplacer sur place. Et puis d'ailleurs, aucun de ces auteurs présumés de ce double assassinat n'a été pour l'instant arrêté. Alors, il y a des noms qui circulent à Paris et à Bamako depuis le début. On parle de Bayak Bakabo, d'Alassane Toubassa, de Mahmoud Oul, de Mohamed Lamine Fall. Le juge malien a récemment émis un mandat d'arrêt contre Bayak Bakabo. Mais le magistrat malien estime qu'actuellement, justement, les militaires maliens sont incapables de l'interpeller et d'interpeller d'ailleurs quiconque dans cette région au nord du Mali, à la frontière avec l'Algérie. Même ces dernières semaines, des sources dignes de foi ont on dit que Baï a été vu dans la région de Kidal ou dans le secteur du Tinzawaten, côté algérien. Les militaires français, eux, ont effectué plusieurs opérations anti-djihadistes. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a confirmé qu'une quarantaine de djihadistes ont été tués. Mais en fait, rien, apparemment, qui n'ait un lien avec ce double assassinat de Kidal.
Et puis, un autre blocage aussi, Christine, c'est l'immunité diplomatique dont bénéficient les membres de la MINUSMA.
Absolument, ça c'est majeur, d'ailleurs enfin c'est du moins un élément majeur avancé par le parquet et les magistrats français. Cette immunité diplomatique qui a jusque-là empêché d'entendre des témoins membres de la MINUSMA, c'est-à-dire des casques bleus à Kidal ou à Bamako. Alors le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a autorisé la levée de cette immunité. Il a autorisé les enquêteurs français qui en ont fait la demande à interroger une dizaine de personnes membres de la MINUSMA en poste à Kidal ou à Bamako, qui auraient des choses à dire sur cette enquête ou sur la façon dont s'est passé l'enlèvement et également sur l'enquête elle-même. Mais l'interrogatoire n'a pas encore eu lieu et se fera, figurez-vous, par écrit. C'est-à-dire que les questions écrites ont été envoyées à la MINUSMA et donc on attend en fait les réponses. Et autant dire que les familles et leurs avocats attendent avec impatience de pouvoir prendre connaissance les réponses qui en découleront.
Et qu'en est-il, Christine, de la coopération entre les autorités françaises et maliennes dans cette affaire, dans cette enquête?
Écoutez, officiellement, elle est plutôt bonne. Depuis le début, d'ailleurs, les autorités judiciaires françaises et maliennes coopèrent. Immédiatement, le Mali a autorisé les enquêteurs français à venir enquêter sur place. L'entraide judiciaire a fonctionné, puisque les victimes sont des ressortissants français. Au mois de novembre, les gendarmes maliens qui étaient présents à Kidal ont réalisé les interrogatoires de témoins en même temps que les Français, dans le camp Serval, avec l'aide des Français. Et d'ailleurs, sur ce point, les magistrats maliens se plaignent de ne pas avoir pu travailler peut-être aussi librement qu'ils l'auraient souhaité. Mais ce magistrat malien confie quand même que les Français et les Maliens cherchent ensemble à faire la lumière sur cette affaire. Et par ailleurs, pour dire que ça marche bien entre Paris et Bamako, l'avocat de la famille de Claude Verlon a décidé de se constituer partie civile à Bamako également pour avoir accès au dossier malien.
Allez, reste avec nous encore quelques instants, Christine Muratet. Une nouvelle question qui nous vient de Mauritanie, à Nouakchott, Alassane, bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Nous vous écoutons.
Bonjour et bonjour à tous les auteurs de RFI. Ma question est la suivante. Le parquet antiterroriste de Paris allait saisir un juge d'instruction au printemps. Je voudrais savoir pourquoi une telle lenteur et en quoi ça pourrait changer sur l'enquête. Merci beaucoup.
Oui, le parquet antiterroriste de Paris qui a effectivement annoncé qu'il allait saisir un juge d'instruction au printemps, comment se fait-il qu'aucun juge d'instruction n'ait été saisi avant, Christine?
Alors, officiellement, la raison évoquée par le parquet de Paris, c'est de dire que justement, les magistrats du parquet ont lancé, ont lancé cette demande d'interrogatoire des personnels de la MINUSMA. C'est long, c'est donc par écrit. Le parquet souhaite aller au bout de cette procédure écrite avant de saisir un juge d'instruction. D'autre part, les spécialistes judiciaires avec lesquels on a pu parler font remarquer qu'il n'est pas rare que des procédures antiterroristes soient longues, même s'il faut bien reconnaître, 5 mois après le double assassinat, le temps semble très long pour les familles de Ghislaine et de Claude, les familles qui ont le sentiment que rien n'avance et que même, pire, qu'une chape de plomb s'est faite sur cette affaire. Alors, les familles et les avocats des familles attendent avec impatience cette nomination d'un juge d'instruction, car en fait, ça leur permettra de pouvoir demander des auditions, de pouvoir demander des expertises supplémentaires, et les avocats reconnaissent qu'il y a des personnes qu'ils aimeraient entendre assez rapidement, qui n'ont toujours pas été entendues, et donc un juge d'instruction leur permettra de faire cette demande, au moins.
Ouais. En tout cas, les familles seront prochainement reçus par le parquet.
Le parquet de Paris a accepté non pas de recevoir les familles elles-mêmes, mais de recevoir les avocats des familles. Le rendez-vous est pour la fin de cette semaine. Il faut dire aussi, Juan, je précise qu'on en a beaucoup parlé sur cette antenne, il y a une association, les Amis de Ghislaine Dupont, association qui s'est créée la semaine dernière par justement des très proches de Ghislaine, qui demande à être reçue par le président Hollande afin d'être informée de l'avancée des enquêtes relevant des services qui dépendent directement de de l'Élysée. Là aussi, une demande a été faite, mais pas de réponse pour l'instant.
Merci beaucoup, Christine Burette, de cet éclairage. Merci à Lassane qui nous appelait donc de Nouakchott. Nouakchott, 339-693-693-70. On me fait des signes que non, on n'a pas Saturnin. La ligne. Ah, on me dit peut-être. Alors, je vais déjà annoncer Saturnin de Porto Novo qui a des questions à nous poser sur l'élection présidentielle de samedi prochain en Afghanistan. Un scrutin à haut risque. On l'a vu encore samedi dernier avec l'attaque du siège de la commission électorale à Kaboul. Bonjour Saturnin.
Bonjour Monsieur Rouen.
On est ravis de vous entendre. Quelles sont vos questions sur l'Afghanistan?
Oui, c'est sur l'élection présidentielle en Afghanistan. Vu que le pays est sur le théâtre d'attentats, j'aimerais savoir dans quelles conditions et quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour assurer la sécurité du scrutin et la sécurité des candidats.
Ouais. Bonjour Elena Tomic.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous Yelena. La campagne électorale afghane, on le voit, est émaillée de violence. Comment les forces de sécurité s'organisent-elles pour garantir la sécurité du scrutin, mais aussi celle des candidats?
Bah écoutez, c'est assez compliqué sur le terrain car le pays est de facto toujours en guerre. On a vu que les ministères compétents de l'intérieur et de la défense font tout pour rassurer le public et les médias que tout se passera dans l'ordre le jour du scrutin et que ça se déroulera dans le calme. Évidemment, sur le terrain, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Il y a un important dispositif de sécurité qui essaye d'assurer donc la sécurité sur le terrain. Mais malgré cela, 10% des bureaux de vote ne pourront pas ouvrir le jour des élections. Pour des raisons de sécurité, justement, ce qui correspond, selon la commission électorale, à très exactement 748 bureaux de vote. Alors, les talibans ont réussi, vous l'avez dit, ces derniers jours, des attaques spectaculaires dans des lieux réputés sûrs, par exemple l'hôtel Serena, où logent de nombreux expatriés, il y a eu des morts, des victimes, ou encore le complexe qui abrite la commission électorale. Alors, ces attaques ont provoqué le départ précipité de nombreux observateurs internationaux qui étaient censés surveiller la bonne tenue des élections. Et puis, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Selon les statistiques de la police, une vingtaine de policiers sont tués chaque jour en Afghanistan. Mais selon le ministre de l'Intérieur, toujours, la situation est sous contrôle à présent, puisque ces derniers jours, le chiffre des victimes est retombé à 3 ou 4 par jour.
Ouais, enfin, des chiffres qui ne sont pas rassurants tout de même, ce qui montre surtout que personne finalement n'est à l'abri, et pas même les candidats.
Non, c'est vrai, il y a l'un des favoris à la présidentielle, Abdullah Abdullah, qui a été victime d'une attaque talibane de retour d'un meeting en février dernier. Son convoi a été pris pour cible par les talibans, malgré l'impressionnant dispositif de sécurité. Il y avait des véhicules militaires, des policiers armés jusqu'aux dents de grenades et de kalachnikov d'ailleurs. Pour éviter au maximum les attaques, on a demandé aux candidats de faire campagne dans des lieux clos, comme des stades par exemple, permettant ainsi des fouilles et une sécurité optimale, même si le risque zéro n'existe pas.
Ouais, Saturnin, vous aviez une autre question?
Oui, enfin, j'aimerais savoir le regard que portent les différents candidats sur la négociation ou avec les talibans.
Ah, ça c'est une très très bonne question. L'enjeu est de taille, Yelena. Comment se positionnent les candidats à la présidentielle sur cette question cruciale pour l'avenir du pays, la question du rapport aux talibans?
Alors là, on va s'attarder que sur les trois principaux candidats, ceux qui, d'après les analystes, ont le plus de chances de remporter le scrutin. Il s'agit tout d'abord d'Abdullah Abdullah, dont on a parlé tout à l'heure, qui est arrivé second derrière Hamid Karzai à la dernière élection en 2009. Ensuite, il y a Ashraf Ghani, ancien ministre des Finances, et Zalmay Rasoul, qui est également ancien ministre des Affaires étrangères. Tous les trois ont donc fait partie du gouvernement Karzai à un moment ou à un autre. Leur position vis-à-vis des talibans est assez similaire en fait. Ils sont tous sans exception pour qu'il y ait des discussions avec les talibans afin que ces derniers déposent les armes et coupent tout lien avec le réseau Al-Qaïda. Ils sont d'accord pour négocier, mais pas à n'importe quel prix. Juan, Abdullah Abdullah l'a d'ailleurs dit lors d'un débat télévisé, il tient à la démocratie. Tout ce qui a été gagné ces 12 dernières années depuis la chute des talibans au niveau du droit des femmes, par exemple, ne peut pas être remis en question. Il y a des acquis donc qu'il faut absolument préserver. Et puis, donc c'est vrai qu'aucun candidat ne sait réellement comment entamer ces négociations, mais tous sont d'accord pour dire que les talibans font partie du paysage afghan et qu'ils sont tout simplement incontournables.
Merci beaucoup Yelena Tomic du service international d'RFI. Reste avec nous dans un instant le journal Le Point Complet sur l'actualité et tout de suite après, vos réactions sur l'affaire Awa Fadiga en Côte d'Ivoire.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.